Avec vous cette semaine, Pascal Dupré. Je suis adjoint au responsable du service. Il est difficile de partager son expérience de foi dans le monde moderne tel qu'il est. Certes, la foi au Christ a semé des fruits d'évangile dans l'humanisme moderne et l'esprit continue de souffler. De nombreux chrétiens en portent témoignage. Mais avec la lente disparition de la matrice culturelle qui a été l'élément principal de la transmission de la foi pendant des siècles, la religion, dans la nature même et d'incarner la foi dans une culture déterminée, est à une sorte de croisée des chemins. L'Église, avec Vatican II, a pris conscience que la culture qui a été évangélisée dans le passé n'existe plus et que c'est la culture d'aujourd'hui qui doit être confrontée à l'Évangile, comme l'ont été les cultures du passé. Certains, pourtant, rêvent encore des structures et activités ecclésiastiques connues à la fin du XIXe siècle ou avant la Révolution française et d'un retour à la chrétienté qu'il faudrait rétablir. Mais ces débats sont aussi très présents à l'intérieur du monde musulman, où certains voudraient exiger l'application de la charia, la loi de Dieu, dans les lois civiles. La place de la condition féminine et masculine est bien au cœur de l'évolution de toutes les sociétés. Dans ce contexte d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de la conférence du Centre de réflexion chrétienne sur l'Église et l'égalité des sexes, qui se tiendra à 20h30 le lundi 17 mars à la Visitation 22 rue d'Aligre à Chartres. Maud Amandier et Alice Chablis ont mené une enquête rigoureuse à travers les textes officiels de l'Église catholique et ils ont montré que les traditions patriarcales ont déversé dans l'Église, comme dans la société civile, des mythes et préjugés sur la place des hommes et des femmes et le partage des rôles en fonction des sexes. Dans toutes les cultures, le principe masculin l'emporte sur le féminin et l'Église n'y échappe pas. Avec nous aujourd'hui au téléphone, Alice Chablis. Bonjour Alice.
Oui, bonjour, bonjour Pascal.
Pouvez-vous nous présenter un peu votre parcours, nous dire rapidement qui vous êtes ?
Alors, j'ai un profil un peu pluriel, comme beaucoup de mères de famille. Je me suis engagée pour une partie de ma vie dans l'église, donc du caté, de l'aumônerie de lycée et finalement aumônier de grandes écoles et d'université, où là j'ai rencontré quand même des difficultés de relations en fait avec l'institution qui était toujours récurrente et qui était sur la prise de parole, c'est-à-dire qu'en fait je sentais que j'étais là pour faire le boulot mais que voilà ce que j'avais à dire ou ce que je pensais n'était pas franchement très intéressant. Voilà, donc c'est une des origines des questions que nous nous sommes posées dans notre livre avec Maud.
Voilà, alors vous êtes auteur d'un livre, co-auteur d'un livre qui s'appelle « Le déni »,« Enquête sur l'Église et l'égalité des sexes », qui est sous-titré « Ils sont au pouvoir, elles sont au service ». Pouvez-vous nous dire quels sont les principaux constats de votre étude ?
Alors, oui, pour les principaux constats, donc ça va peut-être être un peu beaucoup, mais peut-être donner l'origine de la réflexion sur ce livre, c'est-à-dire que on avait plusieurs questions, on avait travaillé ensemble sur un journal au MCC, et on avait les mêmes questions.
Le MCC,
Mouvement des cadres chrétiens,
d'accord,
pardon.
D'accord, merci.
Voilà, et on s'est rencontrés là, puisqu'elle était venue remanier le journal, et moi j'étais à ce moment-là responsable avec mon mari du mouvement. Et on échangeait beaucoup sur des questions qui, je crois, sont communes à beaucoup de chrétiens, de catholiques. Pourquoi les divorcés remariés ne peuvent plus recevoir de sacrement? Pourquoi les prêtres sont célibataires? Pourquoi les femmes secondent toujours les hommes? Donc ça, c'était notre expérience. Pourquoi l'Église, à l'époque, c'était au moment où il y avait Benoît XVI et on voyait qu'il condamnait tous les travaux sur le genre. On voyait bien qu'elle avait peur de l'égalité, etc. Et je vous passe quelques autres questions qui ont permis de creuser notre recherche. Et pour faire cela, on a voulu au départ interroger plutôt des femmes qui étaient dans l'église, qui avaient des responsabilités. On s'est vite rendu compte que c'était compliqué pour elles parce qu'elles nous disaient « Non, ça vous fait pas le dire. Alors non, un livre avec de la sociologie, c'est pas possible. » Donc on a changé de lieu de réflexion et on s'est dit ben on va travailler les textes du magistère, où il y a beaucoup d'écrits de niveaux différents, il y a des homélies, il y a le droit canon, il y a le catéchisme, il y a les encycliques, etc. On va chercher ce qu'il dit sur ces questions-là. On va noter puis on va voir ce que ça donne. Voilà.
D'accord. Alors vous avez principalement qu'est-ce qui en ressort de ce travail sur les textes ?
Alors deux choses assez différentes. Très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un discours sur le masculin qui ne recroisait pas du tout le discours sur le féminin, c'est que c'est pas traité ensemble. On a un discours sur le masculin qui est sur le droit, c'est-à-dire que les hommes sont inclus dans le droit, mais pas les femmes. Par contre, pour les femmes, il y a un énorme corpus qui parle d'elles, mais ce sont des récits, des représentations, des mythes qui arrivent à donner des modèles aux femmes qui ne sont pas vraiment donnés aux hommes. Et donc, le traitement des femmes est très différencié des hommes. Et on s'est dit, ça, c'est quand même extraordinaire parce que nous avons une humanité commune. Et on ne la voit pas vraiment là, et on a trouvé que ces modèles étaient, dans l'analyse qu'on faisait des textes, si vous voulez, étaient extrêmement enfermants et culpabilisants pour les femmes.
Quand vous parlez des... quand vous parlez des modèles, c'est quoi? C'est Ève, c'est Marie, voilà, vous pouvez peut-être dire quelques mots, parce que c'est pas forcément évident pour nos auditeurs.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que finalement deux personnages assez mythiques, parce que Marie finalement a très très peu d'existence réelle dans les évangiles, et l'Église a construit autour de cette figure quelque chose d'assez mythique, d'assez improbable, d'assez sublime, qui est donné comme modèle. Et non seulement il est sublime, c'est quand même un modèle impossible, vierge et mère à la fois. Eh ben, on peut pas l'être. Et c'est pourtant ce que dit explicitement Jean-Paul II dans son encyclique Mulieris Dignitatem. Et Ève est toujours cet archétype qui d'ailleurs dépasse la pensée de l'Église catholique, qui est un peu dans les têtes. C'est que quand même les femmes sont dangereuses, les femmes sont tentatrices, les femmes sont bavardes. Et on intériorise, hommes ou femmes, ce modèle-là comme un modèle culpabilisant. Il faudra toujours se rattraper de quelque chose parce qu'on est quand même créé première dans le péché, quoi, selon la Genèse. Voilà. C'est un peu ces choses-là qu'on a essayé de démonter et montrer que peut-être on pouvait être ailleurs et lire l'Évangile d'une autre façon.
Oui. Alors, donc vous basez ça sur l'analyse des textes. Et si j'ai regardé un peu dans votre livre, je pense que vous faites quelque chose qui m'a semblé assez clair sur le pouvoir et le service et le mélange qui a été fait un peu les deux en disant que le pouvoir, c'est le service. Enfin, si j'ai bien compris. Voilà. Vous pouvez en dire quelques mots ?
Oui, tout à fait, parce que vous parliez de constat tout à l'heure. Et c'est ce à quoi nous sommes arrivés à la suite de nos analyses, c'est de voir qu'en fait le pouvoir est distribué aux hommes de façon claire, et si on reparle du droit canon, on le voit, alors que les femmes sont vraiment assignées au service, on leur dit que c'est une vocation, que c'est formidable, que comme elles sont vouées à la maternité, eh bien elles sont plus capables du service des autres, du soin, de l'attention, etc. Et ce qui nous a paru très paradoxal, après cette division donc des rôles très nette, une division patriarcale et là aussi qui dépasse la pensée de l'Église, enfin qui est bien au-delà de l'Église, on s'est rendu compte que la phrase qui revient, le pape le dit lui-même, sa première homélie, il dit « le pouvoir c'est le service ». Alors là, on se dit, non, le pouvoir, c'est pas le service, c'est quand même deux termes vraiment très antinomiques. Ensuite, est-ce qu'on peut vraiment coller ces deux choses-là? Et puis d'ailleurs, si le pouvoir est le service, pourquoi les femmes peuvent pas être prêtres? Si être prêtre, c'est servir, comme ils le disent dans leurs lettres et dans les encycliques qui sont adressées aux prêtres. Donc il y avait là une contradiction extrêmement forte, une discrimination très grande. Et on a travaillé sur cette question-là dans deux chapitres de notre livre.
Vous employez le mot discrimination. Est-ce que vous pensez que les positions de l'Église que vous décrivez, en fait, peuvent poser problème en termes de droit ?
Absolument. La convention de 1979, qui est donc une convention très importante et très efficace pour lutter contre les discriminations qui sont faites aux femmes, et elle s'appelle d'ailleurs comme ça. Elle est très détaillée, elle est signée par la plupart des pays, avec des réserves bien sûr pour les pays comme l'Arabie Saoudite et d'autres pays musulmans, des grosses réserves sur les articles importants qui permettent de déceler vraiment les inégalités qui sont faites aux femmes. Et malheureusement, le droit canon, d'emblée, est discriminant, c'est-à-dire qu'il y a un des droits canons dit « seul un homme peut recevoir validement l'ordination sacrée ». Et un autre canon dit « seul un ordonné a la capacité de gouverner l'Église ». Donc on a une discrimination par rapport au sacré, par rapport à la médiation avec Dieu, par rapport à s'approcher de l'autel, célébrer les sacrements, etc. on a une discrimination sur le gouvernement et sur le pouvoir de parole, c'est-à-dire que l'interprétation est réservée aux hommes, et il est bien dit en creux que la capacité des femmes, elle ne peut pas gouverner, elle ne peut pas être chef. Et on retrouve la division des rôles pouvoir-service. Et c'est sûr que l'Église ne pourrait pas signer cette convention, parce qu'à ce moment-là, on pourrait l'attaquer et dire, bah, écoutez, voilà, moi j'ai une vocation, et Dieu sait qu'il y a des femmes qui en ont, et l'Église me discrimine. Alors, elle n'est pas tenue de signer les textes, mais malgré tout, elle ne prend pas position.
En même temps, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que la disparition d'une certaine matrice culturelle qui a été l'élément principal pendant des siècles de transmission de la foi, enfin on va dire la religion, la nature c'est de la religion, c'est d'incarner la foi dans une culture déterminée, ça a été fait à une certaine époque qui était assez patriarcale, et qu'aujourd'hui on continue, si je comprends bien, à maintenir dans la religion telle que on la conserve dans un certain positionnement, alors que la nature même de la religion, c'est d'incarner la foi dans une culture déterminée, mais qui est aujourd'hui, quoi, et qu'à ce moment-là on se trouve pris entre des positionnements différents, alors que depuis Vatican II, j'avais cru comprendre que on avait pris conscience de cette culture qui n'était plus la culture de la postmodernité. Alors comment vous pensez, est-ce que les textes aujourd'hui, est-ce qu'il y a des évolutions dans ce sens que vous avez vues dans l'analyse que vous avez faite ?
Là, c'est difficile de répondre parce que c'est vrai qu'on est relativement déçu par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'après Vatican II, il y a eu effectivement un enthousiasme, une ouverture, une volonté d'ancrer effectivement dans la culture et de façon plus positive à la façon de Jean XXIII qui a donné un élan positif. Je pense que les écrits de Jean-Paul II et de Benoît XVI, donc ils ont quand même beaucoup travaillé ensemble, ont orienté la pensée de l'Église sur une lutte contre ce qu'ils appellent le relativisme de la société et qu'ils passent à côté de justement ce travail du droit international et des droits nationaux mondial sur la Déclaration universelle des droits de l'homme qui allie égalité, liberté, dignité et droit. Et quand on lit par exemple les discours de Mgr Parolin, qui a une grosse fonction justement internationale auprès du pape, lui, il ne parle que de dignité, il ne parle jamais d'égalité, et il ne parle pas non plus de liberté. Et il y a des concepts que l'Église aujourd'hui n'arrive pas à intégrer et qu'elle diabolise malheureusement. Donc l'ouverture, peut-être qu'elle est dans la tête de notre pape actuel, qui semble un peu différent dans sa lignée idéologique, si on peut employer ce mot, mais il a peu de moyens de faire avancer les choses, parce qu'il y a le droit, parce qu'il y a la théologie, et que ce sont, pour le moment, le droit et la théologie sont actuellement pris dans l'Église. On l'a bien vu pour le synode de la famille.
Si j'avais à vous proposer quelque chose, c'est d'être positif, c'est que l'Église se prive de richesses de 50% de l'humanité. Ben voilà, c'est ce que j'avais envie de dire, moi.
Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en effet, ce qu'il faut, c'est en effet se rassembler, oser débattre, oser parler, que les femmes aient la parole, la place qu'elles occupent est déjà très importante dans le travail qu'elles font dans l'Église, qu'on les laisse parler et surtout qu'on débatte, qu'on se pose les vraies questions et qu'on ose en fait débattre. Je pense que c'est peut-être ça qui serait positif de faire.
Eh bien, écoutez, merci Alice, et puis à bientôt dans cette conférence que vous allez tenir à la Visitation le jeudi 17 mars, 22 rue d'Aligre à Chartres, à 20h30. Pour conclure, vous nous avez montré que « ils sont au pouvoir, elles sont au service » n'est pas seulement une figure de style, les faits sont là. Joseph Moin, qui préface votre livre, dit « il devrait être considéré par le magistère comme un signe des temps ». Il est une invitation à les déchiffrer. Merci de nous avoir aidés en ce sens. Au revoir. Merci à Alice qui nous a donné envie de venir prolonger cet échange à 20h30, le jeudi 17 mars, à la Visitation, 22 rue d'Aligre à Chartres. Merci aussi à Simon qui a assuré la technique de cette émission, et à bientôt sur Radio Grand Ciel.